1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Yann avec vous pour l'émission Le Grand Tout. Nous sommes ensemble en direct pendant 1h10 précisément, comme tous les jours du lundi au vendredi, 16h30, 17h40. Aujourd'hui, je vous parlerai déjà, des off des trans. Et oui, il y en aura quelques concerts, non pas estampillés bar en trans ni trans musical, mais paraissent plutôt excitants comme ça à l'avance, notamment ce qui se passera du côté de l'Amrock le 5 décembre avec les Laurel Canyon. Le 6 décembre, vous irez peut-être du côté du Bistrot de la Cité grâce à Mourir Bête avec Loïs Lazur, Bully Jordo, Party Escort Bot. Et puis on évoquera aussi un concert du côté du Marquis de Sade le 6 décembre aussi avec Carcara et Wet Tongue Alligator. Ce sera plutôt garage psychédélique. Avant ça, eh bien, nous reviendrons surtout Ronan, hein. Il reviendra sur le festival TNB qu'il a pu apprécier de manière diverse sans doute du 13 au 23 novembre dernier. Et puis on entendra tout à l'heure Soisig Le Bail nous présenter Un fantôme dans la gorge de Diren Nigriofa. J'ai du mal avec le gallique irlandais. Un roman paru aux éditions Globe. Et on commence directement avec notre disque d'or de la semaine, le fantastique Make Art, par l'anglais de Sheffield qui se plaît tellement bien en France qu'il fait des projets musicaux tous les trois mois avec des nouveaux musiciens. Là, c'est avec ses amis deux. Voilà, c'est Nick Wilden and Friends 2. Et le morceau de folk vraiment écorché vif que vous allez entendre maintenant, des Idealists, Nick Wilden and Friends. Et puis juste après, le bouquet garni numéro 13 proposé par Soisig Le Bail. Bonne émission.
Here he comes, the idealist, talking like he means it, but he don't know how I'm feeling. No, he can't see that I'm reeling, for the rain evades my crops, every bead and every drop. Who cares that I forgot to host last evening? Three cheers to the man who'll never understand. I was born into this land with no legs to stand on. Here comes the realist, but I don't wanna hear it, for the wheel just keeps on turning. Joyful memories desert me, and the sparks that used to glow leave me hypnotized and cold. So much worry in my soul, I don't know where to begin. Three cheers to the man who'll never understand. I was born into this land with broken legs to stand on. And hip hip hooray, I'll wash my tears away with a whiskey. Here comes the hearse and the widow of my hurt. In the mirror she will flirt and chastise me. My reflection is a ghost who poses as my host, wears my shoes and sports my coat, but I don't perceive him. And three cheers to the man who gave me half a plan to set sail into the wind on a ship that's built to sing. And hip hip hooray, I'll wash my tears away with a whiskey.
L'émission Le Grand Tout sur Canal B le mercredi, c'est littérature avec Soisig Le Bail. Bonjour Soisig.
Bonjour Yann.
Aujourd'hui, Bouquet garni, ça veut dire que c'est un roman plutôt récent, hein. Il n'est pas ni en livre de poche, ni consacré plutôt à des lecteurs jeunes. Non, c'est aujourd'hui Un fantôme dans la gorge de Dhiren Negriofa, traduit de l'anglais et d'Irlande. J'ai eu du mal à bien prononcer, je suis pas sûr de l'avoir réussi, le nom de l'autrice. Ça a été traduit de l'anglais d'Irlande, donc par Elisabeth Pellart, et c'est aux éditions Globe.
Je te remercie Yann d'avoir prononcé le nom de l'auteur à ma place, parce que moi je ne sais pas le faire. Alors des fois, l'association que ce roman n'est pas pour vous, on résiste à la lecture et puis finalement on se laisse emporter. D'autres fois ça marche tout de suite, et c'est tout aussi mystérieux. Pourquoi on aime un texte, un récit, aussi loin de nous soit-il? Pourquoi il nous chalute? Pourquoi il nous dérange? Pourquoi il nous fascine? J'en sais rien. Mais en tout cas, voici le récit qui avait tout pour ne pas me plaire et qui m'a renversé. C'est l'histoire d'une jeune femme irlandaise qui a choisi de faire des enfants, à la file. Elle passe beaucoup, beaucoup de temps dans les couches, l'allaitement, et elle aime ça. Elle tire de cette vie d'innombrables petites joies, dit-elle. Un récit féminin écrit à la première personne, et l'auteur nous y invite. Son temps à elle, la nuit, lorsqu'enfant et mari dorment, elle s'immerge dans la relecture d'un célèbre poème irlandais du XVIIIe siècle, Canodea, je ne sais pas comment ça se prononce, écrite par une poétesse, Eileen Duff Ni Shonail, pardonnez-moi, édition du Globe, parce que je ne sais pas lire l'irlandais. Et cette jeune femme y trouve réconfort et sujet à réflexion. Lorsque sa dernière petite fille est hospitalisée, manquant de mourir, la maman perd pied. Et pour se maintenir dans le monde des vivants, elle entame une recherche sur la poétesse qu'elle veut retraduire du gaélique vers l'anglais. Personne d'autre qu'elle n'a mieux compris cette œuvre. Pour cela, il faut retrouver les traces de l'auteur, plonger dans les archives. Il ne s'agit pas d'être la spécialiste, de revendiquer une recherche universitaire. Non, la quête est plus intime. Et elle retrouve dans l'histoire de cette femme une familiarité avec la sienne, dans son poème, dans son chant, dans cette ode, une résonance bouleversante. D'une écriture apparemment simple, ce récit sensible est aussi très poétique. Chaque chapitre commence par un ou deux vers de la poétesse. À la fin du volume, le texte intégral en gaélique et en français est retranscrit. D'un thème que je ne chéris pas, ode aux familles nombreuses, à la maternité heureuse, l'auteur va pourtant bouleverser son écriture si singulière. Et il faut, je pense, vraiment saluer la traduction d'Isabelle Pellert, sa simplicité qui n'élude pas une recherche intellectuelle intense. Et je vous invite à mon tour de découvrir cette autrice et ce récit si original. L'écrivaine irlandaise est une poétesse, autrice de 6 recueils acclamés et récompensés, tant en Irlande qu'aux États-Unis, en Italie et en Écosse, entre autres. Son écriture explore les thèmes de la domesticité, du désir, de l'entremêlement du passé et du présent. Je vous en lis un peu, un tout petit peu, le tout début. Ceci est un texte féminin, composé en pliant les vêtements de quelqu'un d'autre. Je le garde au plus près de mon esprit, et il grandit, tendre et lent. tandis que mes mains s'acquittent de leurs tâches innombrables. Ceci est un texte féminin cousu de culpabilité et de désir, assemblé au son des comptines de dessins animés. Ceci est un texte féminin et sa seule existence, un tout petit miracle comme en ce moment même, où il parvient à une autre conscience grâce à la magie ordinaire de l'impression. Ordinaire aussi, la pensée qui ricoche et vole à présent de mon corps jusqu'au vôtre. Ceci est un texte féminin écrit au XXIe siècle, comme il vient tard, combien les choses ont changé, combien peu. Ceci est un texte féminin qui est aussi un canoned, donc ce mot imprononçable pour moi, un chant funèbre, un chant de labeur, un hymne de louange, une psalmodie et une plainte, une lamentation et un écho, un cœur et une ode. Venez y prendre part. Ouais, je vous invite, venez y prendre part, parce que vraiment, c'est bouleversant, de simplicité. Ouais, je pense que ça fait vraiment écho à plein d'existences.
C'était une évocation, une présentation dans Bouquet Garni par Soisig Le Bail de Un fantôme dans la gorge de Diren Nigriofa. C'est traduit de l'anglais par Elisabeth Pellart et c'est aux éditions Globe. Merci beaucoup Soisig, à la prochaine fois pour peut-être des façons de dire les noms des auteurs, autrices plus faciles.
Je répéterai surtout, je répéterai avant de venir.
Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt.
Aujourd'hui dans Bouquet Garni numéro 13, Soisig Le Bail nous présentait Un fantôme dans la gorge de Diren Nigriofa. Vraiment, on a vraiment du mal à le dire. Ce nom-là, c'est traduit de l'anglais, mais de l'anglais d'Irlande, vous avez compris, par Elisabeth Pellart. C'est paru aux éditions Globe et la musique d'illustration, vous l'avez reconnu probablement, le groupe de Dublin, Lancum, avec ce titre assez oppressant quand même, The Wild Rover. Nous retrouverons bien sûr, comme on se le disait tout à l'heure, Soisig Le Bail, mercredi prochain, pour eh bien, à nouveau nous parler bouquins dans le grand tout. Mais à présent, on va parler théâtre, et c'est surtout Ronan, bonjour Ronan.
Bonjour.
Qui va vous en parler de ce même théâtre, celui mis en avant, ce théâtre-là, par le festival TNB qui se déroulait à Rennes du 13 au 23 novembre. On avait débuté les festivités avec la présence d'Arthur Nosiciel, que tu avais passé à la question, sans lui faire mal, hein, je crois qu'il n'avait pas souffert. Et aujourd'hui, tu vas revenir sur quelques-uns des spectacles apprécié lors de leur jeu ici à Rennes. Je te laisse bien nous emmener au théâtre alors si tu veux bien.
Eh ben Arthur Nozis a été venu nous présenter cette édition 2024 qui est une édition riche de promesses selon lui, et je dois dire que pour ce qui me concerne, bah, c'était une édition riche de promesses tenues. Hein. Comme souvent, on a pu voir des propositions résolument originales venues presque du monde entier pour témoigner d'un théâtre bien vivant. La bête bouge encore et même bouge pas mal. Pas mal du tout, et ce, malgré certaines annonces de coupes budgétaires sans précédent dans le domaine de la culture.
Hein. Pour l'instant, on est moins touché que dans d'autres régions, mais on verra.
Voilà, mais en tout cas, voilà deux semaines assez trépidantes et excitantes de gagner sur un futur un peu incertain. Alors à propos de futur, justement, on commence avec Jean-Claude, que j'ai pu voir à la Paillette. Jean-Claude, dont paradoxalement, je dirais pas grand-chose, non seulement parce que nous avions déjà consacré une chronique à cette création du collectif Aïe Aïe Aïe, création mise en scène par Julien Mélano, mais surtout parce que je ne voudrais rien déflorer de ce spectacle, puisque vous auriez l'occasion de le voir à Cesson au Pont des Arts le mardi 18 mars, et c'est un spectacle que je vous recommande vivement. Alors, assurément, on est plus habitué à voir la science-fiction portée sur grand écran que sur un plateau de théâtre, et pourtant le génie du bricolage de Julien Mélano, son sens de la scénographie autant que de l'humour, très affûté tous les deux, ont bien sûr déjoué tout ce que j'avais pu anticiper de ce spectacle quand il m'en avait parlé avant sa création. C'est toujours aussi singulier que décalé et très très beau. Alors sur cette antenne, j'avais émis des doutes sur le psychisme de Julien Mélano, que j'avais qualifié de particulier. Celui-ci avait ainsi déclaré: parfois ça m'arrive de rester une demi-journée à plier un bout de mousse pour voir ce que ça donne. Eh bien, chers auditeurs, après avoir vu Jean-Claude, croyez bien que je le regrette, tant le résultat est hallucinant. Mais en ai-je déjà trop dit? Eh bien, vous ne saurez donc rien de la mission de Jean-Claude sur cette exoplanète, et si vous voulez voir jouer de la mousse comme jamais, courez réserver votre place pour Jean-Claude. On le rappelle une fois encore, c'est le mardi 18 mars au Pont des Arts à Cesson-Sévigné. Et on enchaîne avec un second spectacle, Léviathan, ça je l'ai vu au TNB, Léviathan mis en scène par Lorraine de Zagazan et écrit par Guillaume Poix, spectacle issu à l'issue d'un travail d'immersion de l'équipe artistique dans la 23e cour du tribunal de Paris. Et c'était le spectacle qui ouvrait cette émission, cette édition.
Quel joli lapsus, je trouve.
Décidément, les mots aujourd'hui, cette édition 2024 du festival TNB. Mais plongeons dès à présent dans les entrailles du monstre.
Monsieur, pour la suite des échanges que nous allons avoir, vous aurez la possibilité de vous taire, de répondre aux questions ou de faire des déclarations spontanées.
Je répondrai à toutes les questions, monsieur.
Si vous ne souhaitez pas répondre à une question, monsieur, il n'y a aucune difficulté. Vous dites juste, moi, je ne réponds pas à ça, et le tribunal passera à la question suivante. Monsieur, vous êtes présenté sous la procédure de comparution immédiate. Est-ce que vous souhaitez être jugé aujourd'hui, ou est-ce que vous demandez un délai pour préparer votre défense?
Alors c'est clair, nous voilà au cœur d'un tribunal, et plus particulièrement au cœur d'audience de comparution immédiate. Et pendant l'heure 45 que dure ce spectacle, on assistera à l'exposé de trois cas inspirés de faits réels. Alors si l'on parle d'une cour de justice au théâtre, on imagine aisément que la scénographie est toute trouvée, hein, et l'on aura partiellement raison. Côté jardin, les prévenus et leurs avocats, côté cour, une table derrière laquelle la juge et le procureur. Alors la justice, ça se prête facilement aux caméras, hein, que ce soit celle du documentaire, on pensera à 10e chambre de Raymond Depardon, ou aux caméras du cinéma presque documentaire avec le procès Goldman par exemple, ou encore Saint-Omer, les exemples abondent. Mais à chaque fois, la justice est montrée sous un angle assez objectivant, clinique, parfois même assez minéral. Avec Léviathan, le parti pris est aussi inverse que radical. Le fait social bien réel sera traité en cauchemar, en une terrifiante fantasmagorie. Il s'éloigne à ce point du réel pour mieux en dénoncer l'inhumanité. Alors si on revient sur la scénographie, on peut dire qu'elle est simple et sophistiquée en même temps. Ce n'est pas le prétoire ordinaire que l'on découvre, mais un lieu oppressant. Le sol est couvert de terre, une sorte de chapiteau fait d'un tissu rose confine le lieu de l'action, et les parois de tissu qui à un moment se dilatent et se contractent comme les parois d'un estomac font de ce prétoire un espace organique. Car oui, nous voilà bien dans les entrailles du monstre biblique, le Léviathan. Mais le Léviathan, c'est également cet ouvrage de Hobbes dans lequel le philosophe théorise un état dominateur, souverain absolu, auquel nous devons nous soumettre sans condition. C'est la violence de l'État qui doit nécessairement se substituer à celle des individus. Et effectivement, c'est très violent. On sort secoué par l'évocation très expressionniste de cette justice qui trouve son arbitraire dans le fait d'être aussi expéditive. Chacune des trois audiences est chronométrée et dure en moyenne une trentaine de minutes. Chacune se conclut sur une peine de prison ferme. Prison ferme pour celui qui a piloté sans permis une moto dans une voie privée. Prison ferme pour ce SDF qui a insulté le personnel d'une structure d'accueil. Prison ferme pour cette femme qui a volé des habits. Une justice expéditive qui condamne fermement, alors que souvent il n'y a pas de victime. La charge contre l'institution est sans appel, et pourtant elle ne vise pas les personnes qui font la justice. Les dossiers s'empilent et le temps manque. Tout dans cette urgence et ce manque de moyens devient donc aussi cruel qu'absurde. Dans cette chambre du secret, dans cette chambre au secret, on assiste à un jeu de masques. Masques que porte chacun des comédiens, sauf un, créant ainsi une certaine distanciation dans le jeu, comme si dans la réalité on portait aussi un masque, comme si on jouait sa propre marionnette, comme si on tenait le rôle que l'on s'était vu assigner, faute de pouvoir vraiment faire face à son incapacité à résoudre les vrais problèmes. Et à ce niveau, c'est très réussi. Parfois, ça devient un peu systématisé. Par exemple, dans une longue séquence de récitatif, sorte de chanter-parler, un peu comme à l'opéra, qui finit à la longue par complètement brouiller notre compréhension. Et c'est d'ailleurs un défaut du spectacle qui a tendance à en rajouter partout, à saturer notre réception. Saturer notre réception d'effets de mise en scène, pas toujours nécessaire. Peut-être quelques vidéos étaient-elles dispensables. Dispensable à coup sûr l'irruption de ce cheval à la fin, qui semble rapidement s'ennuyer sur scène, et par là même, nous ennuie. Alors c'est un peu dommage, car assurément Léviathan est un spectacle fort, puissant, l'accusation est précise, juste, souvent portée par une sorte de narrateur didactique. Alors faut pas voir, il n'y a pas de connotation péjorative dans le terme didactique. Ce narrateur lit les trois parties et nous explique en même temps cette particularité de la justice française que sont les comparutions immédiates. Elles furent instaurées en 1983 comme une procédure d'exception. On en compte aujourd'hui 60 000 par an. Voilà, donc spectacle sombre, auquel succède maintenant le lumineux Reminiscencia de Maliko Vaca Valenzuela. Ça, je l'ai vu à l'air libre, c'était le 20 novembre. Magnifique, magnifique de simplicité et d'émotion. Pendant 50 minutes, ce jeune dramaturge chilien nous a promenés dans sa géographie de l'intime, dessinant via Google Earth une topographie de l'intime à l'universel. C'est un spectacle qui est né pendant le confinement, cloîtré dans son très modeste chez lui et sans grandes ressources, dans une petite impasse de Santiago du Chili. Maliko entreprend de visiter sur internet les lieux et les moments liés à son passé personnel autant qu'à celui de sa famille et des habitants de la ville. Il collecte également des images de ses proches et surtout de ses grands-parents dont il est le premier voisin. C'est donc une exploration dans le temps et l'espace qui n'était pas prévue pour la scène et qui pourtant s'y est vue portée avec autant de simplicité que d'efficacité. C'est un théâtre tout en verticalité, pardon, puisque sur scène, tout se déploie sur un écran vidéo sur lequel est projeté l'écran de l'ordinateur du comédien. Celui-ci est assis à une petite table qu'il ne quittera jamais et nous parle d'une voix étonnamment douce de sa quête du temps à retrouver. Ce qu'on voit ainsi commenté par l'artiste, c'est le bureau de son ordinateur et les différentes interfaces qu'il lance et pilote avec une certaine dextérité. Œuvre de l'intime déjà, puisqu'il livre au regard de la salle l'écran brut de cet ordinateur personnel, ordinateur personnel qui est en général un espace plutôt protégé. Mais ce qui m'a particulièrement étonné et plu, c'est qu'il transforme ainsi ces objets numériques du quotidien en quelque chose de visuellement très beau. Ce ballet orchestré sur écran géant restitue la fascination, l'élégance de ces outils numériques que leur usage quotidien nous a peut-être fait un peu oublier. Ainsi, le spectacle commence par une visite de quelques lieux de Santiago sur Google Earth, et sur un écran géant, ça devient vertigineux. On plonge littéralement dans le cœur battant de la mémoire de la ville. C'est par exemple un vieil hôpital abandonné, celui où il est né, et guidé par sa voix paisible, on l'explore poétiquement. C'est par exemple aussi la place de la Dignidad qui nous fait découvrir, de nuit et de jour, place d'où sont parties de gigantesques manifestations ces dernières années et auxquelles Maliko a lui-même participé. C'est bien une quête du temps passé, une recherche de souvenirs intimes autant que collectifs. C'est la mémoire de la ville qui est interrogée dans les traces que chacun y a laissées. C'est aussi par exemple cette série de plaques de fonte, mobilier urbain, banal pour obstruer les égouts, et dont un certain nombre ont été gravés au chalumeau par un mystérieux auteur, toujours le même, de Maxime d'Amour à l'eau de rose. « T'aimer fut plus facile que de t'oublier ». Et cette série de plaques de fonte que le comédien a géolocalisées permet ainsi de débuter une nouvelle visite de la ville et de son passé. Cette ville, c'est également l'impasse, celle où vit la famille de Malico. Une impasse dont il est dit qu'elle est hantée. Alors là, on fait un petit détour par le fantastique latino, sud-américain. Une impasse de gens plus que modestes, dont les maisons ont des toits de tôle rouillée. Et c'est là que vivent ses grands-parents, un couple d'éternels amoureux qui passent ses journées à chanter de la guimauve latino, se prêtant volontiers au regard de la caméra de leur petit-fils. On devine à leur visage une vie difficile d'adversité et de peu de moyens. Et pourtant, à condition qu'un poste de radio traîne dans le coin, et le grand-père il en a 5, c'est une joie toujours renouvelée de se mettre à chanter, chanter aussi contre l'oubli, puisqu'on apprend que cette grand-mère souffre de la maladie d'Alzheimer. Alors comme le dit l'expression « En France, tout commence et tout finit par une chanson », ce fut le cas aussi avec ce spectacle chilien, puisque nous fûmes invités à chanter avec Malico, avec ses grands-parents, un de leurs titres favoris. Assurément, pour moi, ce fut un des moments les plus forts du festival.
Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Mais Kevin, crétin de Secret Story 3, oui. Il paraît qu'il a coupé ses cheveux, c'est imbécile. Mon cousin par alliance, par moment, ressemble à Brad Pitt. Mais il n'a pas les mêmes muscles. Michael Vendetta ne ressemble pas à Brad Pitt, même s'il est blond. Il est nunuche, c'est un connard, il ne mérite pas de gagner la fame de célébrité. Son métier, c'est de faire le buzz. Il a la même voix que Sting dans le dessin animé Fairy Tail. J'ai partagé ma chambre avec ma copine Léa, qui ressemble à Scarlett Johansson en rousse. Nicolas, mon mono de ski à la plane, ressemble à Hayden Christensen. Je crois qu'il est célibataire, mais je n'avais pas le niveau de ski pour me marier avec lui. Je ne l'oublierai jamais. Aucun mec ne ressemble à moi, je suis comme un drôme. La vie réelle est agaçante. Aucun mec ne ressemble à moi, je suis comme un drôme. La vie réelle est agaçante.
Ronan revient dans l'émission Le Grand Tout sur quelques spectacles appréciés pendant le festival TNB à Rennes du 13 au 23 novembre. Vous avez entendu à l'instant la sélection musicale de Ronan. C'était le groupe Astéréotypie, le collectif Astéréotypie avec le fameux « Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme ».
Oui, car ressembler ou ne pas ressembler à, telle est la question qui nous mène directement au Teatro de la Plaza, théâtre installé depuis une vingtaine d'années dans un quartier populaire de Lima, au Pérou. Le Teatro de la Plaza qui nous a offert le très déconstruit Hamlet.
No es increíble que un actor sea capaz de transformar su rostro, derramar lágrimas, cambiar la voz y acomodar sus acciones a la historia que quiere expresar. Quisiera ser capaz de hablar y hacerme entender. Y sin embargo yo estoy aquí, tartamudeando, llenando el vacío con mis palabras. 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 ¿Es esto valentía? Desahogar el corazón con palabras como si fuera un niño.
Alors pour les non-hispanophones dont je fais partie, voici tout de même la traduction de ce qu'on vient d'entendre. N'est-il pas incroyable qu'un acteur soit capable de transformer son visage, de verser des larmes, de changer sa voix et d'adapter ses gestes à l'histoire qu'il veut raconter ? Il voudrait être capable de parler et de se faire comprendre. Et malgré tout, je suis là en train de bégayer et de remplir le vide de mes paroles. Des mots, des mots, des mots. Est-ce ceci le courage ? Soulager le cœur avec des mots comme si j'étais un enfant. Eh bien oui, avec cette adaptation de Shakespeare, ce fut incroyable et non sans une certaine dose de courage. Ce projet de Hamlet est né de la rencontre de la metteuse en scène Sheila de Ferrari, je ne suis pas sûr de la prononciation, avec Raïm Cruz. Raïm Cruz qui a atteint de trisomie 21, ou syndrome de Down, et qui à l'époque travaillait comme ouvreur au Théâtre de la Plaza, mais dont le rêve était bien de monter sur scène. Et Sheila Ferrari parle ainsi d'une vision, celle de Raïm portant la couronne du prince, vision initiatrice de ce magnifique spectacle, où elle n'a eu de cesse avec ses huit comédiens, comédiennes, de faire dialoguer le texte de Shakespeare avec leur vie de personnes atteintes de trisomie. nous livrant ainsi du grand classique une version déconstruite, résolument émancipée autant qu'émancipatrice. C'était donc un montage de passages du texte original, d'adresse directe au public, de récits personnels des comédiens, d'expressions de désir autant que de frustration, de performances râpées également. Et il s'agit finalement bien plus d'une version sur le fait de jouer Hamlet, de s'en donner le droit, que d'une énième version d'Hamlet. Chacun, fort de sa singularité, endossera à un moment le rôle-titre, selon la résonance entre le destin du personnage et la problématique de sa propre vie. Il y sera question, à l'aune de son handicap, de la liberté, de la descendance, de la filiation, de l'affirmation de soi et de sa différence. Et d'ailleurs, chacun des comédiens se présente au début du spectacle, affirme face publique sa singularité, sa différence et prévient de ses éventuelles difficultés à dire le texte. Et puis nous autorise également, si on n'aime pas, à quitter la salle, mais sans faire de bruit. En tout cas, personne ne l'a fait ce soir-là. Chacun s'empare donc à sa manière avec ce qu'il est d'Hamlet. On retiendra par exemple ce passage où l'un des comédiens, c'est Raïm, entretient un dialogue WhatsApp assez comique avec Sir Ian McKellen, un grand acteur shakespearien, pour lui demander des conseils pour jouer le monologue. Et puis, finalement, il finit par trouver sa propre voix. Il le fait comme lui l'entend le faire. Alors la scénographie est vraiment très simple. Sur le plateau, on a délimité au scotch blanc un carré, comme si la scène restait avant tout un espace de travail, d'une recherche et d'un questionnement permanent autour de la figure d'Hamlet, dont la fiction est finalement toujours tenue à distance. Il y a donc une austérité revendiquée qui favorise aussi une grande frontalité, voire convivialité. Il n'y a plus de limite tellement entre la salle et le plateau, tant nous, spectateurs, sommes sans cesse interpellés, questionnés dans nos idées reçues. Pas de limite, pas d'hierarchie, au point qu'à la toute fin, nous sommes invités à envahir le plateau qui se transforme alors en piste de danse. Ainsi, la tragédie est devenue une fête renversante. Renversante parce qu'avec cet Hamlet-là, il y a eu comme une forme d'inversion dans le regard que pose la société sur le handicap considéré comme le fait d'être empêché, de ne pas pouvoir et sûrement aussi de ne pas être autorisé. Et bien ce soir-là, c'était nous les neurotypiques qui étions bien embarrassés quand quelques-uns parmi nous furent invités à rejoindre la scène pour jouer un rôle de figuration. Et les comédiens ont demandé alors aux volontaires de jouer justement comme eux, à leur manière. Fugace instant de flottement et puis finalement beaucoup de rire. Alors pour conclure sur ce très beau moment du festival, ces huit comédiens ont prouvé une fois de plus que ce n'est pas nous qui sommes redevables aux grands auteurs pour les textes qu'ils nous ont laissés, mais bien eux qui le sont, de ceux qui décident de s'emparer avec force et même brutalité pour leur donner un souffle toujours nouveau. Alors de handicap et de renversement, ce deuxième volet de l'émission en fait est consacré à ce qu'on appelle, j'aime pas trop cette expression, la création adaptée. Eh bien, de handicap et de renversement, il est encore question avec L'Order is Not Always Clearer. J'arrive pas trop à dire le dernier mot. En français, ça veut dire plus fort n'est pas toujours plus clair. Un spectacle de Gareth Clark et Johnny Cotson. Ce dernier étant également l'interprète de cette performance sur la surdité écrite et jouée par un homme sourd. Une heure pendant laquelle, autant par un jeu de renversement que de miroir, nous avons été confrontés à l'incompréhension avec laquelle les sourds doivent composer au quotidien. Nous avons donc accédé au point de vue, ou on devrait plutôt dire au point d'audition ou d'ouïe, d'un homme sourd dans son quotidien. Alors ce spectacle a été écrit à la suite d'échanges avec des communautés de sourds et de malentendants dans tout le pays de Galles. Tous témoignent ainsi à travers les mots de Johnny Cotson, qui est monté à cette occasion pour la première fois sur scène à l'âge de 43 ans. Johnny Cotson, c'est au plateau une présence certes chaleureuse, un peu énigmatique et un rien ironique. On s'est souvent demandé ce qu'il attendait de nous. Car pour le comprendre, il a nécessairement fallu que nous en passions par l'incompréhension. Une incompréhension double, ce que Johnny ne comprend pas dans la parole des autres et ce que nous ne comprenons pas quand Johnny tente de nous parler. Alors ça commence par une chanson que Johnny aimerait nous chanter, mais voilà, il n'y parvient pas. C'est le prélude à un rien malaisant de cette performance à la scénographie épurée. Johnny nous fait ainsi part de son expérience de sourd et il l'expérimente avec nous. C'est par exemple la difficulté qu'il a rencontrée à patiemment dompter les sons pour les rendre intelligibles et les transformer en mots. Il nous fait aussi éprouver le vacarme phonique dans lequel paradoxalement ses appareils auditifs peuvent le plonger. Il relate ses appréhensions quand il n'y a plus assez de lumière pour pouvoir lire sur les lèvres. Et puis surtout avec malice, il nous renvoie nos idées préconçues dont il a fait une patiente collecte. Par exemple, parler plus fort à un sourd, ça ne sert à rien. Non, les sourds ne sont pas demeurés. Ah bon, toi aussi, tu connais un sourd? Et alors? La langue des signes, qu'est-ce que c'est beau, j'adore. Avec malice aussi, Il renverse la situation de handicap car désormais c'est nous qui ne comprenons plus quand il délaisse le clavier de son ordinateur pour s'adresser à nous avec la langue des signes. À cet instant, nous ne sommes plus, nous, du côté des capables. Et puis comme avec Reminiscenza, tout commence et tout finit en chanson. Il conclut avec la chanson de départ, nous confiant qu'à sa propre fête d'anniversaire, quand il était ado, il n'avait pas osé le faire. Nous avons pris le temps de faire connaissance, un temps pour se faire suffisamment confiance. Il nous invite à chansigner avec lui et puis enfin se lance à chanter cette fameuse chanson avec sa voix. Super moment de convivialité et de partage qui vient clore une forme aussi courte qu'efficace, qui prend parfois cependant un peu son temps. Mais enfin, je crois bien que ça fait partie du propos, nous mettre dans l'expectative de celui qui attend de pouvoir comprendre. Voilà pour cette édition 2024 du festival TNB. Mais assez parlé des spectacles vus. Un petit agenda pour finir.
Ce qui reste à voir, il y a encore de très nombreux spectacles, ouais. Mais certains que tu as vraiment envie de...
Tout à fait, voilà, deux spectacles qui feront sûrement l'objet d'une future chronique. Voilà, c'est donc Hostile de la compagnie Beck Elite 2 et avec Olivier Ranoux. Au programme Survival et Western, servi à la table du Théâtre d'Objets. Ça, ce sera le mercredi 4 et le jeudi 5 décembre au Théâtre de la Paillette. Et puis, un spectacle, une petite forme également par la compagnie nantaise Les Maladroits, à vous les studios. Il y sera question d'une course cycliste de deux commentatrices et de quatre moniteurs vidéo du siècle dernier. Et ça, ça va se jouer dans une tournée organisée par le Théâtre de Poche Dédé, le mercredi 4 décembre à Vignoc, le jeudi 5 à Dinger, le samedi 7 à Sens de Bretagne et le dimanche 8 à la chapelle aux Fils Méen.
Merci beaucoup Renaud. Merci. Pour ce long retour sur l'édition 2024 du festival TNB. Si vous voulez peut-être tenter d'aller retrouver ces spectacles en ligne ou dans d'autres villes, allez sur t-n-b.fr, voilà le site du Théâtre National de Bretagne. On termine avec bien ce retour d'Astéréotypie avec toujours cette chanson incroyable. Aucun mec ne ressemble, non jamais, à Brad Pitt dans la Drôme. À bientôt Renaud,
bientôt.
Merci.
Clément ressemble à Zac Efron, Gabriel à Ben Barnes, Adrien à Jared Leto, Claire ressemble à Oda de la Star Academy 4, Mathilde à Lily Cole, Célia à Erika Durance qui joue dans Smallville, ressemble à Samir, le cousin de Benzema, qui apparaît dans Hollywood Girls. On l'aime pas trop, il est con. Il s'était accouplé avec Aurélie dans L'Île des Vérités. Aucun ami ne ressemble à Bradley Cooper. Peut-être un jour, ce sera la surprise.
Dans la session info-concert de cette émission Le Grand Tout que vous écoutez en direct sur Canal B, eh bien, j'évoquerai quelques concerts off. Je pourrais en laisser encore quelques autres, des off des trans, off des bars en trans, mais tout de même dans des bistrots du cœur de Rennes les 5 et 6 et 7 décembre. Voilà, je vous parlerai de trois concerts, deux organisés par Désordre et puis un autre organisé par nos amis de Mourir Bête. On commence directement avec ce qui vous est proposé à l'Amrock sur la dalle de la Tour des Horizons. Et bien ce sera un concert de Black Boys on Moped, décidément duo très actif ces temps-ci, puisqu'il joue aussi cette semaine dans le cadre du festival Culture Barbare. Vous les retrouverez en tout cas à Lamrock le 5 décembre, avec toujours ce garage rock'n'roll pied au plancher. Mais il y aura aussi un groupe américain, celui-ci, Laurel Canyon. Laurel Canyon, eh bien, c'est cette petite zone de Los Angeles, un peu dans les montagnes, où les Mamas and Papas et pas mal d'autres groupes pop mélangeant la folk, les Birds n'étaient pas loin non plus de cet endroit-là, eh bien, créaient des choses assez incroyables entre 1965, 66, 67, par là. Après, la drogue va tout détruire, c'est sûr, mais peut-être vous créer des choses, hein, sans doute. Mais bon, ça ne sera plus la même magie non plus. Laurel Canyon, eh bien, c'est le nom de ce groupe qui mélange garage, ambiance un peu grungy sur les bords. Vous allez pouvoir entendre un titre de ce groupe, Laurel Canyon, c'est le morceau A Man About Town. À voir donc à Lamrock à Rennes, jeudi 5 décembre, dans le cadre de ce Off-Off, Trans-Off J1, jour 1 donc, pour Désordre. Écoutons Laurel Canyon.
Right.
Nick Gillespie, guitariste chanteur du groupe Laurel Canyon, était pas mal invité sur ce titre Man About Town. Vous voulez retrouver les Laurel Canyon, un quatuor de Pennsylvanie, et bien à Rennes, du côté de Lamrock. Ce sera le jeudi 5 décembre. C'est Désordre qui fait son trans-off en 3 jours. Le premier, c'est avec Black Boys on Moped et Laurel Canyon à Désordre. Je vous parlerai des 2 et 3e jours après, et après qu'on aura abordé bien un autre bistrot du centre de Rennes. Ce sera le Bistrot La Cité qui vous propose, avec Mourir Bête, et bien de passer quelques moments hors des sentiers balisés par les trans musicales et les bars en trans. Là, vous serez dans l'underground le plus absolu. Bon, avec Mourir Bête pour une 35e soirée où vous retrouverez Party Escort Bot, qu'on écoutera tout à l'heure, Bully Jordo dans quelques instants, et puis maintenant Loïs Lazur, producteur autodidacte marseillais qui aime sa musique après le club, après la boîte de nuit, avec des ambiances assez sombres, assez dub aussi, électroniques et des basses bien lourdes. Vous allez entendre un titre de Loïs Lazur dans un instant. Loïs Lazur qui a signé un mini-album pour le label Teenage Menopause. On écoute Loïs Lazur, et puis juste après, je vous le disais, ce sera Bully Jordo. Peut-être vient celle de Bordeaux, c'est assez possible, je crois quand même. Life.
growth of beauty.
Que c'était du LSD dans vos oreilles, vous avez eu un peu cette impression là hein. Vous savez pas, en train de mentir, je vois très bien. Et ben c'est normal, c'était Bully Jordeau à l'instant, qui ne vient pas de Bordeaux du tout mais de Bruxelles, voilà, c'est tout à fait différent, et qui nous proposait un extrait de son album Vision, premier album sorti sur cassette sur les labels Grande Rousse et Womb. Elle est bruxelloise et propose quelques émissions de temps en temps sur une radio de Bruxelles, cette demoiselle qui propose un mélange entre pop déviante, électronique, lo-fi, et c'est passionnant de bout en bout, tiens, cet album. Marie Cloque en est fan, et comme moi je suis fan de Marie Cloque, donc forcément bah, je suis fan de Bully Jordeau aussi, ah, c'est normal. Vous retrouverez Bully Jordeau avec aussi Loïs Lazur et puis Party Escort Bot, grâce eh bien, à Mourir Bête pour cette soirée, Mourir Bête numéro 35 en off des trans au bistrot de la cité. Vous allez entendre maintenant eh bien, Party Escort Bot avec une musique là aussi bien enfumée, peut-être un peu moins pleine de vision que celle de Bully Jordeau qu'on écoutait à l'instant, mais je vous laisse libre d'imaginer tout ce que vous voulez à l'écoute de ce titre-ci.
Thank you.
Voilà cet extrait d'un titre de Party Escort Bot présenté par Dizorn comme par Mourir Bête, pardon, présenté comme quelqu'un pratiquant du néo-trip. Hein. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Vous le retrouverez Party Escort Bot avec aussi Bully Jordo qu'on écoutait tout à l'heure et puis Loïs Lazur vendredi 6 décembre au Bistrot de la Cité. Je poursuis ce petit voyage off de trance vendredi 6 décembre toujours, mais cette fois-ci au Marquis de Sade. Et là, c'est Désordre qui vous propose une soirée plutôt rock'n'roll avec les Toulousains de Carcara. Il y a un heavy psyché que les fans de King Gizzard vont adorer, c'est obligé. Et puis il y a aussi les Rennais de Wet Tongue Alligator, là aussi officiant dans un genre plutôt rock psychédélique. On écoute Carcara avec un extrait seulement d'une très longue pièce, le morceau Entropia. Ça, c'est extrait d'un album qu'ils ont sorti l'année dernière, il me semble. Vous retrouvez donc Carcara et Wet Tongue Alligator au Marquis de Sade le 6 décembre. Qui est très heavy et très convaincant des Toulousains de Carcara. À l'instant, ils seront au Marquis de Sade vendredi 6 décembre grâce à Désordre dans ce Trans Off jour 2 avec aussi les Rennais de Wet Tongue Alligator. Et pour terminer en trois dates ces Trans Off par Désordre, eh bien vous resterez peut-être du côté du Marquis de Sade le samedi 7 décembre avec un groupe marseillais Technopolis, garage rock très très cool. Et puis aussi les Parisiens Garage Punk, cette fois-ci de Slaghetti Sluts. Je vous conseille donc d'aller faire un tour du côté du Marquis de Sade ou du côté de l'Amrock pour participer avec Désordre à ces Trans Off en 3 jours. On poursuit l'émission Le Grand Tout et on va même aller vers la fin de cette émission du jour. On poursuit avec les deux albums découvertes de la semaine pour les radios de la Ferrarock. Canal B en fait partie de cette fédération de radio associative musique actuelle en France et vous proposera d'ailleurs un rendez-vous privilégié avec les deux disques et les deux groupes et projets musicaux qu'on va écouter maintenant. D'abord Dead Chic et puis ensuite Garcia Phone, puisque tous deux sont invités dans l'émission Dig Dig Diggers, l'émission hebdomadaire des radios de la Ferrarock qui vous est proposée sur Canal B le vendredi à 18h. Et donc vous saurez tout sur ces deux projets musicaux là, plutôt rock fiévreux, influencé aussi par la musique de Western Spaghetti de Morricone pour Dead City, et puis côté beaucoup plus folk, assez calme pour Garcia Phone que vous entendrez juste après. Vous retrouverez en tout cas toutes les infos autour de ces deux disques dans l'émission Dig Dig Diggers que j'évoquais juste à l'instant, ou bien sur ferrarock.org. On se retrouve jeudi avec le musicien René Johan Minkoff dans Le Grand Tout sur Canal B. Retrouvez playlist et réécoute de cette émission sur canalb.fr. A bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.
You count me in, Matisse. 1, 2, 3. Cast aside the parts of you, the ones you can erase. Sit beneath the silence of your speech. Baby, there's a part of you, a part that I forget. Sometimes it gets so difficult to breathe. Patience and all understanding. Conscious in all your words and what you've learned. Swings from her knees, summoned to the maker. Nothing in between. I wanted freedom from your mercy, patience from your soul, relations to the prophet, and gave myself the way left to go, the way left to go. Man, and I stayed in my
Everything